Alors peut-être que depuis la semaine dernière, avec les sentences « aimez vos ennemis »,« faites du bien à ceux qui vous persécutent »,« donnez, l'on vous donnera »,« soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux », et puis aujourd'hui, hein, ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur, un arbre se reconnaît à ses fruits. Vous posez peut-être cette question, est-ce qu'on assiste à un mauvais agencement de la part de Saint-Luc de sentences de sagesse? Voilà. Bon, il fallait bien les placer quelque part, alors on les a mis à cette place-là. Ou alors est-ce qu'à travers ça, on a un petit traité de vie spirituelle? Vous voyez, parce que l'intérêt en fait, de ce texte, c'est un peu comme il conclut, hein, il parle de fruits. Donc le but en fait, de notre vie spirituelle, ça va être de porter du fruit. Et on le voit aussi dans cette petite parabole sur les deux aveugles. J'ai essayé hier, je ne savais pas comment un aveugle pouvait guider un aveugle, et j'ai demandé à deux scouts hier de mettre leur foulard sur leurs yeux et de se guider l'un l'autre. Eh bien, ça ne marche pas bien. Voilà. Donc, nous, ce qu'on a reçu, c'est la foi, une foi qui éclaire, qui est notre lumière, une foi qui n'est pas juste pour nous-mêmes. Vous voyez, être chrétien, ce n'est pas juste avoir la foi. Être chrétien, c'est guider les autres, et peut-être guider les autres jusque dans la foi, à avoir la foi. C'est un peu la finale de Saint Matthieu. Allez de toutes les nations, faites des disciples et en leur enseignant ce que je vous ai prescrit. Faites des disciples en leur enseignant ce que je vous ai prescrit. Donnez la lumière aux autres. Comment est-ce qu'on va guider les autres? Tout d'abord en voyant nous-mêmes. C'est la grande demande de l'aveugle de Jéricho qui dit « Seigneur, fais que je voie ». Que je vois où aller, que je vois comment aimer les autres, qui aimer, ce que je peux faire, comment est-ce que je vais les aider, voilà. J'aimerais un peu comprendre tout cela. Nous, on a reçu cette grâce-là par la foi, qui nous a éclairé, qui nous a donné de comprendre Dieu, de comprendre ce qu'on doit faire dans ce monde. Donc, j'ai d'abord à m'occuper de moi-même, de ma relation à Dieu. C'est un peu l'adage, hein, charité bien ordonnée commence par soi-même. Ben, c'est d'abord vrai pour ma vie spirituelle. Voyez, le plus beau cadeau que je peux offrir à l'autre, c'est d'être un saint. Si je ne travaille pas d'abord à ma sainteté, si je ne travaille pas d'abord sur ma relation à Dieu, eh ben, je suis comme ce que dit saint Paul, je ne suis qu'une cymbale retentissante. Voilà. Donc ça ne sert pas à grand-chose. Je suis un aveugle qui guide un aveugle. Donc tu veux guider les autres? Eh bien alors travaille sur ta vie. Travaille sur toi. Alors on nous parle d'œil, de bouche, de cœur. Ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Finalement avec l'histoire des aveugles, je vois que ce que voit l'œil, eh bien c'est ce que regarde le cœur. Hein? Mon œil va voir mauvais si je cherche dans mon cœur le mauvais de l'autre, et il va voir le bon ben, si je cherche le bon fond de l'autre. Voyez. Ensuite, on nous parle de paille, de poutre, d'arbres, de ronces, de fruits. Un arbre qui se reconnaît à ses fruits, comme l'homme va se reconnaître à ses paroles, à ses actes. On va reconnaître la qualité de son cœur. Un homme bon, du bon trésor de son cœur, produit le bon. Et un homme mauvais, de son mauvais fond, va produire le mauvais. Alors, pourquoi est-ce qu'on va travailler sur notre cœur? Pour deux raisons. La première, c'est que, en fait, on ne peut pas se cacher indéfiniment. Voyez, l'espace qu'on va prendre dans une conversation, l'espace de parole, notre manière de parler, va trahir notre cœur, va laisser transparaître notre cœur. C'est la première lecture. La parole fait connaître les sentiments. Voyez, si ma question c'est de travailler juste mon extérieur, juste à faire bonne figure, quelque part je loupe ce travail intérieur qui va rejaillir à l'extérieur. Est-ce que nous cherchons à faire bonne figure ou est-ce que nous cherchons à être transfigurés? Voilà, travailler l'intérieur parce que on ne peut pas se cacher indéfiniment. Deuxième raison, c'est en fait l'efficacité de notre vie, l'efficacité de nos paroles et de nos actes, elle va jaillir de notre cœur. En fait, je vais influencer les autres, je vais influer plutôt les autres dans le sens où moi je vais pencher. Imaginons que quelqu'un m'ait blessé, que j'arrive dans la conversation, que je viens voir la personne et que mon seul sentiment, la seule chose que j'ai dans le cœur, c'est de me venger. C'est une parole de haine. Je vais influer, je vais instiller la haine chez l'autre. Si j'arrive avec des sentiments de paix, de pardon, eh ben l'autre rentrera plus facilement dans cette paix, dans ce pardon. Pareil, si dans nos conversations, on cherche tout le temps à se placer, voyez, ça nous arrive quelquefois, on essaye de se placer, de dire, montrer qu'on est quand même un peu bien, peut-être un peu mieux que les autres, eh ben les autres vont réagir comment ? Ben, ils vont aussi se placer. Et chacun va se placer, et puis c'est l'orgueil qui va être mis sur la table. Par contre, si j'arrive avec des sentiments d'humilité, si je reste à ma place, dans la vérité de mon être, eh ben, je vais instiller ça aussi dans la conversation, dans nos relations. On voit ça avec la Vierge Marie qui va visiter sa cousine Élisabeth. La Vierge Marie, elle a eu à l'Annonciation ce grand honneur, cette grande gloire d'être la mère du Seigneur. Elle pourrait s'enorgueillir et en fait ce qu'elle dit c'est comment m'est-il donné, ça c'est Élisabeth qui le dira après, mais je suis l'humble servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Donc elle rentre dans la joie et dans l'humilité du Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer avec Élisabeth ? Eh bien elle va rentrer dans la joie et dans l'humilité de Marie. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ? Entre guillemets, je ne suis pas digne d'accueillir la mère du Seigneur. Et pourtant, j'en tressaille d'allégresse. Les mêmes sentiments qu'il y a dans le cœur de Marie vont être mis dans le cœur d'Élisabeth. Donc, on ne peut pas se cacher indéfiniment. L'efficacité de notre vie, elle jaillit de notre cœur. Et puis maintenant, trois petits critères pour travailler notre cœur. Le premier, c'est qu'il faut parier sur la vie cachée. J'ai fait encore cette expérience en allant en Terre Sainte, notamment à Nazareth, en emmenant des pèlerins là-bas. Nazareth, c'est une grosse ville, mais Nazareth, à l'époque, c'est un coin paumé. C'est 200 habitants, donc c'est rien du tout. Et pourtant, c'est Dieu qui va rester caché là, lui qui est la pleine lumière, la pleine révélation, la grande vérité, il va se cacher là pendant 30 ans. La vie de Jésus, 30 ans de vie cachée, 3 ans de ministère public, 3 jours de la Passion, Résurrection et 3 heures sur la croix. Et pourtant, il est quand même notre Sauveur pendant sa vie cachée. Est-ce que nous parions sur une vie cachée, sur une vie d'enfouissement dans la prière, dans notre vie ? C'est ce qu'a vécu Jésus, c'est ce qu'a vécu aussi Marie. Marie qui n'a pas prêché, elle n'a pas fait le tour du monde pour prêcher l'Évangile et pourtant, je pense qu'elle a évangélisé. Elle était dans cette vie cachée, elle a évangélisé. Donc il y a une évangélisation à faire dans notre vie qui va passer par ce primat de la prière sur l'action. Le primat de la prière sur l'apostolat. Si on me confie une mission, si j'ai un devoir d'État à mener, ma question c'est, est-ce que mon temps de prière est en place ? Est-ce qu'il y a la prière qui est au cœur de ma vie ? C'est la grande question. Le pape Jean-Paul II, qui écrit une encyclique à l'aube du nouveau millénaire, il va dire, mais en fait, on est dans des grandes planifications. On est à l'heure des grands programmes. On a des grands plans sur le monde. Et il dit, en fait, c'est le primat de la grâce. C'est le primat de la prière. C'est le primat de prendre un temps avec Dieu. De prendre un temps de cœur à cœur avec Dieu. Je prends une image avec Saint Bernard. Vous voulez avoir des belles images sur notre vie spirituelle, vous lisez Saint Bernard, vous lisez Saint François de Sales. C'est les deux grands auteurs qui ont mis en image notre vie spirituelle. Il prend cette image du réservoir ou du canal. Et il pose cette question, est-ce que vous voulez être un réservoir ou est-ce que vous voulez être un canal ? Le canal, quand il donne son eau, il devient sec. Par contre, le réservoir, quand il donne son eau, il le donne par débordement, donc il ne se vide jamais. Est-ce que je suis un réservoir ou est-ce que je suis un canal ? Et finalement, au bout de mon devoir d'État, au bout de mon apostolat, au bout de ma mission, ben, je suis complètement sec. Ou il prend une autre image, il prend l'image de la mer. Il fait, quelle mer va nourrir son enfant sans d'abord se nourrir elle-même. Si elle ne se nourrit pas, elle va mourir. Et donc son enfant va mourir avec. Donc la mère se nourrit d'abord pour ensuite nourrir son enfant. Donc on donne Dieu par rayonnement, par débordement, et non pas à sec. Donc parier sur la vie cachée, sur une vie d'enfouissement avec le Christ. Deuxième petit critère, c'est ne jamais cesser d'apprendre. Toujours vouloir être disciple, toujours être en capacité d'écoute. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. En fait, ce qu'on voit, hein, quelquefois dans nos discussions, on va dire « je sais tout ». On n'est plus en capacité d'accueillir. Le sage, la définition du sage dans la Bible, de l'homme intelligent, de l'homme prudent, c'est celui qui apprend tout des événements, des autres, de ses discussions. Il est toujours en capacité d'écoute, toujours en capacité d'apprendre. C'est ce qu'on appelle la formation continue. On dit c'est important. Les prêtres, ils font 7 ans de séminaire, mais ils ont besoin de continuer à lire des bouquins, à se former, à écouter des conférences, etc. Une formation continue. Et en fait, l'analogie, c'est pour notre cœur, est-ce qu'il est en capacité de toujours être formé? Est-ce qu'il est malléable? Est-ce qu'il est pétrifiable, notre cœur? Ou est-ce qu'on a un cœur de pierre et on peut rentrer les lettres juste avec un burin? Voilà, est-ce qu'il est pétrifiable, notre cœur? Et dernier petit critère, c'est ce que nous donne saint François de Sales, rien par force, tout par amour. Comment est-ce que nous vivons les événements de notre vie? Est-ce que nous forçons les événements ou est-ce que nous les épousons avec docilité, avec douceur? Et quand on fait l'expérience dans les événements de notre impuissance, est-ce qu'on est dans cette dynamique de nous remettre à la toute-puissance de Dieu? Il y a deux phrases dans l'évangile de Marc. Il y a « Tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit ». Celui qui croit, c'est celui qui s'en remet à Dieu, qui a remarqué qu'il n'était pas tout-puissant sur les événements et qui a remis sa toute-puissance à la toute-puissance de Dieu. Donc je rappelle les trois critères pour eux. Essayez de les vivre, parier sur une vie cachée, d'enfouissement dans la prière, ne jamais cesser d'être disciple, toujours être en capacité d'apprendre, et puis rien par force, tout par amour. Voilà, que le Seigneur nous inspire ces sentiments au plus profond de notre cœur. Amen.